bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode 0 de la causeuse de Divan Quest. Ça ressemble beaucoup à Divan Quest d'habitude, mais pas de Jeff. Puis un peu moins bien préparé.
Ouais! Hein? Ça fait un peu ça.
Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de pas Jean-François Laporte. Ben, c'est ça qui arrive, hein? On s'explique un petit peu. Dû à la vie, l'horaire, le travail,
le décalage horaire.
Les bars mars. Non, ça va pas. Bref, dû à tout ça, on a manqué de temps pour et la préparation et on a été incapable de se timer pour faire l'épisode avec Jeff. Fait qu'on a décidé de faire un petit Inside Baseball, de faire un petit épisode où est-ce qu'on va réfléchir sur Divan Quest puis en parler. Mais ça veut pas dire qu'on vous laisse en reste. Par contre, on a quand même de l'actualité, on a quand même l'univers de Divan Quest. On va quand même parler de deux sujets, moi et Dan. Puis après ça, on va aller sur les discussions sur l'avenir. Puis encore une fois, on le garde pour la fin. Fait que si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, ben bonne journée. Puis aux autres, ben participez à la discussion.
Ben restez, oui, parce qu'on va avoir besoin de vous, là.
Et voilà, on veut que voir où est-ce qu'on s'en va dans l'avenir avec ça, puis que vous y contribuez. Alors, ben qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine, Dan?
Ben quand même, étrangement, pas mal de choses.
Moi, ouais, ben toi, t'as eu le temps de te préparer, mettons.
Vaguement, mettons. Bon, hein. Mettons que j'ai pris le peu de temps que j'avais de libre dans la semaine pour me préparer avant qu'on décide de pas trop faire l'épisode. Fait que, ben c'est ça. Mais bref, au moment d'enregistrer, aujourd'hui même, notre pod, là, ben là, le premier raid de l'expansion Legion de World of Warcraft va sortir, est sorti, dans le fond. Puis moi, je suis sur le point de le commencer.
Donc, t'es venu enregistrer quand même?
Ah oui!
Un professionnel, mesdames et messieurs.
J'ai passé la semaine pas mal à farmer des herbes, là, parce que je suis pas un riche mécène qui peut acheter des herbes à prix ridicule sur l'auction house. Là. C'est n'importe quoi. Là. L'inflation a explosé, c'est ridicule. Bref, j'ai fait comme, hey, on écoute Walking Dead avec ma blonde? Ben, faut farmer des herbes en même temps. Tu sais, c'était tout tournes en rond, tu ramasses du gazon. Pis tout.
Du gameplay engageant, mesdames et messieurs.
Ben, c'est ça. T'sais. D'habitude, je faisais fuck, puis j'achetais, puis je faisais mes potions, puis. Mais là, non, je vais pas comme. Non, non.
Je refuse.
Donc, c'est ça. Fait que, petit job relax. Sinon, on a commencé à se stresser, nous autres, quand on se lève le matin, c'est ce que je disais avec ma blonde, puis qu'il y a du brouillard parce qu'on a recommencé à écouter Walking Dead. On avait un peu abandonné, là, pas parce que c'était plate, juste de même, là, comme ça, ça arrive. Voilà. Puis on était vers la fin de la deuxième saison, fait qu'on a recommencé, on est rentré en troisième saison, puis ça fait du bien, un peu de zombie dans la vie.
T'sais. J'avais arrêté aussi tôt dans la saison 2 pour... facteur X, puis j'ai jamais recommencé.
Ben, ça ressemble un petit peu à ça. On est à peu près à mi-saison, puis on a recommencé, puis non, c'est plaisant. On a écouté cette semaine l'épisode d'où vient le plus célèbre meme avec Carl et Rick. Là. Là, j'étais comme... C'est un bout... Tu sais, je veux pas rien spoiler si tu l'as pas vu, mais c'est quand même un bout assez tragique de l'histoire, puis moi, j'étais crampé, se disant, à cause des memes caves de dad jokes, là, tu sais. Mais bon.
On partagera nos favorites.
peut-être. Sinon, ben voilà. Donc, beaucoup de wow. Le premier raid commence demain matin, comme je disais, avec un groupe avec qui je suis pas officiellement encore, là, mais je suis en trial, mettons, en période d'essai. Donc, je commence demain matin avec un groupe qui a un nom qui est...
Rectify! Tabarnak!
Shout-out au podcast Convert to Raid, qui, dans le fond, qui est un podcast qui a fait naître la guilde dans laquelle je suis, qui est vraiment une guilde vraiment de Raider, là, un peu. Puis il y a un des anciens co-animateurs du show qui était dans ce groupe-là. Donc, il y avait le drop suivant que je suis allé juste voler. Puis je me dis que si je rentre dans le groupe, je demanderai la permission officiellement de voler le drop.
Puis sinon, ben, on va l'utiliser pareil. Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. Fait que oui, voilà, on l'utilisera sans autorisation. Sinon, en période d'essai, mais j'ai commencé demain matin. J'étais un peu excité. Ça fait longtemps que j'ai pas raidé.
Entrevue pour être dans un groupe.
Genre, là. Mais tu sais, il y a eu des petites discussions. Puis bon. Je pense qu'au niveau des visions, ça coordonne. Il reste à savoir si je suis assez bon pour eux autres. Je devrais m'en sortir. Sinon, il y a quelques semaines, on a vu apparaître sur les autoroutes des internets web une version fonctionnelle du jeu d'aventure Warcraft Adventures Lord of Clans, qui est un jeu qui était développé genre dans les années 90, fin 90, par Blizzard, qui avait été abandonné. Mais le jeu était pratiquement terminé, si on veut. Donc, pour les fans de Warcraft comme moi, pour les fans de lore de Warcraft, d'histoire, c'était un peu comme un cadeau de Noël que tu as oublié dans le garde-robe en 95, que tu retrouves maintenant, tu sais, avec une vieille cassette de Super NES, quelque chose. Là. Donc, c'est...
Il y a tellement quelque chose d'infiniment satisfaisant au jeu unreleased. Surtout s'ils sont proches d'être finis, là, puis tu te dis pourquoi qu'ils l'ont pas sorti.
J'ai pas joué des tonnes. C'est sûr que je vais vouloir y rejouer pour me rendre un peu plus loin. J'ai joué un petit peu, puis tu sais, de temps en temps, une ligne de dialogue qui est comme en synthèse vocale, genre.
OK.
Mais sinon, le voice acting est presque là au complet.
Quand ils sont en synthèse, est-ce que c'est la voix de Microsoft Sam?
Ça ressemble à ça, là. Je pourrais pas te confirmer, là, mais ça ressemble à ça. Donc, c'est sûr que j'en reparle éventuellement de ce jeu-là, c'est sûr.
Puis, on a de l'actualité en fait qui concerne le voice acting dans les jeux. Je pense que tu vas pouvoir apprécier le parallèle.
Oui, oui, quand même. Puis, dans la même veine, étant donné qu'on parle de Blizzard puis de jeux, on apprenait aussi là, dernièrement le départ à la retraite de M. Chris Medzin, qui était vice-président au développement créatif chez Blizzard, qui prend une retraite méritée à l'âge vénérable de 42 ans pour profiter de la vie et de sa pile d'or, là, style Picsou, genre. Là. Bonne retraite à M. Medzin, qui a été vraiment... on pourrait l'appeler le Dungeon Master de tous ceux qui auront joué à World of Warcraft, qui est en arrière de beaucoup d'histoires.
Un gros morceau de chez Blizzard qui part.
Oui, quand même. Mais bon, tu sais, il part pas... Il part à la retraite. Là. Moi aussi, avoir la possibilité de partir à la retraite à 42 ans, je le ferais.
Oh, puis il a dû en baver depuis une dizaine d'années.
Oui,
là.
C'est clair. Mais depuis le début, là, il était là depuis le début. Puis au début, Blizzard, c'était pas gros comme ça l'est maintenant. Là. Mm-hmm. Voilà. J'avoue, je n'étais pas sûr si j'allais en parler de ce bout-là. Peut-être que j'avais un petit peu honte. Peut-être que j'avais peur de me faire juger. Mais si je regarde autour de moi, je pense que ça devrait bien se passer. Là.
Il y a juste moi et Dan.
C'est ça. Toi puis tes affaires dans tes étagères. Là. Donc, j'ai flanché le 16 septembre dernier. J'ai eu un petit moment de faiblesse. J'étais à Montréal. J'ai vu passer sur Reddit que c'était... Reddit m'a rappelé que c'était la sortie du Pokémon Go Plus et je me le suis acheté.
Ben non! T'as réussi à pas nous en parler avant là.
Eh oui, ça a été ma surprise.
Oh, nice!
Petite micro-review, vite, là. C'est vraiment cool pour pouvoir tracker les distances déplacées avec le téléphone fermé. Donc, tu sauves la vie de ta batterie de façon exponentielle. Pour tracker tes œufs puis le nouveau système aussi de body, là, le Pokémon que tu décides de ton body puis il trouve des bonbons à tous les quelques kilomètres. Mm-hmm. C'est quand même le fun aussi pour grabber les Pokéstop. Sans avoir à sortir ton téléphone puis tu swiper, tu cliques dessus. C'est pas pire aussi pour attraper rapidement des Pokémon que tu as. On sait si le Pokémon que tu trouves, tu le possèdes ou pas, parce que la lumière sur l'appareil va être verte si tu l'as, puis jaune si tu l'as pas. Mais ce bout-là est quand même ce qui rend l'affaire un peu plus plate. Fait que, tu sais, je dirais que pour les gens qui, comme moi, marchent plus que d'autres choses pour leur Pokémon parce qu'ils habitent dans le fin fond de nulle part, c'est quand même cool. Pour les gens qui pensent s'en servir pour attraper des Pokémon, c'est pas super efficace parce que le taux pour attraper, c'est comme si tu prenais une Pokéball de base, tu la lançais sans aucun bonus. Fait que le taux de capture est pas très haut. Moi, jusqu'à maintenant, je m'en suis un petit peu servi, là, justement, dans des moments où est-ce que je regardais pas, puis où je me déplaçais rapidement, ou bon, t'sais. Puis là, ben, j'essaie d'attraper des Pokémon, puis là, je suis en train de passer toutes mes Pokéballs, tu sais. Mais pour tracker les distances, tout ça, c'est quand même cool. Pour le prix que ça vaut. Ça
puis d'ailleurs, je sais pas à quel point c'est confirmé, là, mais c'est extrêmement crédible. Tu sais, il y a bien du monde justement, qui chialait pourquoi que le jeu pouvait pas rouler en background. Puis là, soudainement, quand tu achètes une bébelle à 45$, tu peux. Il y a une bonne raison.
OK.
Puis pour avoir joué avec le SDK, le kit de développement d'Android, je peux partiellement confirmer. Je dis pas que c'est incontournable, mais c'est pertinent. C'est-à-dire que un logiciel ne peut pas appeler les fonctions GPS quand ton appareil est en veille, sauf s'il y a un appareil Bluetooth de connecté. L'appareil Bluetooth, exemple, t'aurais un GPS ou un écran externe ou une montre pour qu'elle puisse afficher, garder trace du GPS, elle peut invoquer. Fait qu'il faut que t'aies un lien Bluetooth de tel niveau là, qui permet d'invoquer, ça sonne comme ça, des spells, tel niveau, invoquer. Ouais, bref, faire appel aux fonctions GPS via un appareil Bluetooth, ça permet d'utiliser le GPS en background. C'est ce que le Pokémon Go Plus permet de faire. Puis c'est probablement ce que la Apple Watch va permettre de faire quand la version Pokémon Go va être disponible.
Ils sortent une version pour la Pebble, ben là, je pleurais d'avoir acheté le Pokémon Go Plus.
Ouais, ben il y a sûrement quelqu'un qui va essayer de reverse engineer ça pour que les autres smartwatches puissent utiliser ces fonctions-là. Mais bon, je pense pas qu'ils vont le faire officiellement tant qu'ils ont un intérêt financier avec le Pokémon Go Plus. Mais cela dit, c'est... Finalement, c'est une limitation qui est technique puis qui n'est pas juste un choix de design un peu douteux. Là.
Mais tu sais, ma réflexion a été ça. Bah, 45$, je pense que je peux vivre avec cette dépense-là pour pouvoir essayer la petite patente aussi. Puis.
Oh, puis tu sais, sur une poche de veston, là, ouais, c'est quand même.
Quelque chose.
C'est geek as fuck, là, mais c'est pas si pire. C'est pas si pire.
Ouais, ouais, ouais. Toi, Matt?
J'ai eu un moment weird, un peu. Ben, pas weird, là, mais la semaine dernière, j'ai des collègues qui ont décidé qu'eux autres, ils jouaient à fucking Rock Band.
Mais c'est toujours le fun.
Ça. Mais j'ai tellement fucking joué à ce jeu-là. Ça n'a aucun bon sens comment j'ai mis des centaines d'heures sur ce jeu-là. Grand maniaque de musique, musicien compétent à mes heures. on a tellement, tellement joué. J'ai eu toutes les versions, j'ai eu les instruments en en détruire et à les remplacer. Fait que quand les gars de la job ont fait comme, hey, on va jouer à Rock Band, tu viens-tu? Puis j'étais comme, sure. Fait que ça m'a comme remis dans le bain. Puis là, je suis en train de rechecker mon hardware qui est un petit peu défaillant de Rock Band. Puis je suis en train de me rééquiper. Puis checker comment je peux optimiser mon setup. Puis, fait que bref, je vais probablement retomber dans le bain.
Mais ça fait ça à chaque fois, là. Mm-hmm. J'ai rejoué à Rock Band l'été passé. Quand je suis allé chez un de mes amis à Québec, on s'est pris en gang pour en jouer. Puis je suis comme, ah, oh, mais ça, j'aimerais ça rejouer. Puis là, j'en ai plus. Moi, j'en avais un qui, je m'en servais pas. Je l'ai vendu pour une pinotte à des amis à ma blonde, à une amie à ma blonde pour ses gars. T'sais. Je me dis, bah, les autres, les kids vont s'amuser. Genre, pis là, je passais cette semaine, mais pas cette semaine, mais tu sais, dernièrement devant les kids des nouveaux Rock Band. Pis je... Oh. Oh, juste une guite. Oh.
Et puis en plus, ça a vraiment été loin. Là. Quand j'étais dans mon appart dans le centre-ville, à Joliette, quand j'ai viré mon salon de bar, j'avais planifié comment qu'on jouerait à Rock Band. Quand j'ai acheté mon ampli, j'ai un ampli Cambridge Audio assez haut de gamme, puis moi, il fallait qu'il soit analogue, pas de traitement numérique, pour qu'il puisse pas avoir de lag quand on passait le micro dedans. Tu sais, il y a des choix de vie qui ont été faits en conséquence de jouer à Rock Band. Fait que c'est vraiment trippant. Ça. Puis il y a toujours aussi un point de vue de design de jeu dont on dérape, là. Mais nous, on a du temps. Hein?
Ah ouais.
Il y a un point de vue de design de jeu qui est super intéressant, que Rock Band, c'est un shmup.
Ah oui.
Alors, regardez,
oui,
comme tu voudras, oui, Rock Band. Vrai. Ikaruga n'a rien sur True the Fire and Flames à Expert, à la guitare. Mais c'est ça, c'est essentiellement un shooter où est-ce que tu dois tirer les pegs qui arrivent, mais que tu as une marge d'erreur plus grande que dans la plupart des shmups.
Mais c'est drôle que tu aimes ça, parce que il me semble que d'habitude, les musiques de jeu puis tout ça, ça t'intéresse pas.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue que ça doit pas venir comme une surprise à quiconque nous écoute qu'un jeu de musique, ça m'intéresse.
Ben, tous les deux, là.
Ouais, effectivement. ensuite, j'ai joué à Recore, qui est sorti sur Xbox One et sur PC, avec le même achat si tu l'achetais en numérique, qui était un des bons arguments de vente pour moi. Ah. C'est le premier jeu de l'initiative Xbox Play Anywhere. Ouais, quand on achète un jeu en digital, ben, il est disponible sur les deux plateformes et les save games se synchronisent. C'est très, très cool. Ça m'a probablement convaincu, moi, d'ailleurs, d'y jouer sur Xbox.
Ben, c'est sûr.
Ben, voilà. Mais j'ai à peu près 6 heures de mis dedans. Puis toutes les reviews disent comme, les 6 premières heures sont vraiment débiles.
T'as plus le goût.
Ouais, je suis vraiment... Puis j'ai énormément de plaisir, puis je vais peut-être en reparler dans un épisode futur. Mais j'en aurais pas fait ma critique dans l'épisode en cours si on avait fait un épisode normal, parce que il y a un gros problème de loading sur la version Xbox. C'est pathétique. On parle de 2 minutes de loading pour loader certaines zones. Le Play 1, regarde ça, puis ils font juste comme, Chris, c'est bien long. Ça aurait même pas passé à l'époque des premiers jeux CD.
Ouais, tu sais, on avait parlé l'autre fois du jeu qui avait un minigame parce que le loading était trop long et c'était pas long de même.
Voilà, c'est incroyable. Là, ils ont sorti une patch ce matin, ou hier soir en fait. Bon, bref, le 22 septembre, ils ont sorti une patch qui semblerait qu'il coupe pas mal, mais que c'est encore quelque chose. T'sais, c'est genre de moitié, ce qui est quand même trop. Puis sur PC, t'as pas ce trouble-là. Sauf que j'ai essayé de jouer via ma Steam Link. Puis là, vu que c'est un jeu qui vient du Windows 10 Store, t'as beau le mettre dans Steam en faisant des manipulations, le gamepad est pas pogné comme du monde. Bref, l'enfer. Fait que j'ai dit, je vais jouer sur Xbox. Puis là, t'as les sticks de loading. T'sais.
Le gamepad est pas pris. Pourtant, c'est un gamepad de Microsoft que tu utilises.
Ouais, mais il le voit pas comme un jeu. Fait qu'il hijack pas le contrôle à Steam Link. Fait que quand tu bouges ta manette, le curseur bouge dans l'écran. T'sais. Ouais, c'est. Bref, plus de Recore un autre jour, mais. Beaucoup de plaisir présentement, à part ce petit détail technique-là qui est un petit peu enrageant. Il y a 2 petits jeux, courtes expériences que j'ai essayé aussi, que je veux partager. Strawberry Jam, qui est probablement le pire nom, parce que c'est très, très dur à chercher sur Google. Là, fait qu'on vous donnera le lien. Là.
Effectivement, tu dois trouver beaucoup de choses sur ça.
Ouais, même si c'est écrit Strawberry Jam Game, c'est l'enfer. Mais c'est d'un certain Daniel Remar. C'est un petit jeu qui se présente comme un platformer 2D, bon... style rétro, mais qui n'est pas un platformer dans le sens qu'il n'y a aucune difficulté au platforming. Okay. C'est un jeu narratif. Mais c'est fou, c'est impressionnant ce qu'il a fait. C'est juste le premier épisode. Il n'y a pas de garantie qu'il va faire les épisodes suivants parce que ça fait vraiment longtemps qu'il travaille là-dessus. Mais chaque petite chose que tu fais est pris en compte. Un peu comme on parlait des Immersive Sims. Sauf que là, on a un jeu narratif très, très... très, très humain. Tu sais, tu joues des fraises, tu sais, puis des bananes, puis différents fruits et autres. Là. Mais tu sais, c'est très humain. Bref, j'y pense avant de le dire.
Ben oui.
Ouais. Mais bref, c'est vraiment à propos des... Il y a quand même une narrative qui ressemblerait à beaucoup de jeux. T'es envoyé par la reine de ton petit village pour aller investiguer une machine qui est à proximité du village en question, puis qu'il y a des espions qui ont été envoyés puis qui reviennent pas. Mais t'es tout simplement un villageois. Tu sais, t'es pas un espion, t'es pas quelqu'un d'armée ou autre. Oui. Puis, c'est beaucoup à travers les relations entre les personnages. Mais il y a un personnage que ton personnage aime pas parce qu'il crie tout le temps. Puis, il est vraiment mal à l'aise autour de ce personnage-là. mais finalement, c'est quelqu'un qui est sourd. Puis il y a vraiment comme un malaise. Puis il y a vraiment comme une discussion au point de dire, si tu vas y parler, ton personnage va essayer d'y exprimer son malaise. Puis les relations se développent. Fait que si tu prends la peine d'aller parler à quelqu'un, ça va faire avancer cette relation-là. Mais tu peux ne pas y aller. Ça n'a pas d'importance. L'histoire, les micro-histoires entre chacun des personnages vont évoluer autrement. Puis quelqu'un d'autre va se dire, hey, comment ça tu savais pas qu'elle était sourde? Puis c'est pour ça que t'es mal à l'entour d'elle, t'aurais dû y en parler, tu sais. Puis il y a vraiment comme tout le cercle des relations s'informe à l'entour de ce qu'on a fait. Puis t'as pas l'impression, t'as pas l'impression qu'il y a un bon chemin dans le jeu, mais vu que t'es en train de jouer un jeu, tu te dis, hey, j'ai-tu fait la bonne affaire? Tu te demandes tout le temps la question pareil, mais il y en a pas. Puis c'est ça que je trouve cool. Qui est fascinant. Ça a beaucoup, beaucoup de rejouabilité. Puis il y a un seul espèce de combat à mener dans le jeu, puis c'est vraiment intéressant parce que c'est un combat. De dialogue, c'est d'essayer de convaincre quelqu'un. Puis vous êtes sur des piliers. Puis celui qui est le plus convaincant, son pilier grimpe plus. Essentiellement, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est vraiment intéressant de voir comme l'échange de convictions. Puis tu as le choix de tes réponses, ça fait que c'est pas juste guidé par le jeu. Puis c'est ça, toutes les situations sont grises. Puis ça fait que c'est un petit exercice narratif super intéressant.
Donc, tout ce que j'ai compris là-dedans, dans le fond, c'est que ce jeu-là a fait grossir ton pilier.
C'est le fun de se sentir écouté. et l'autre jeu, puis en passant, c'est quand même 30-40 minutes là, que j'ai mis dans ce jeu-là. Puis peut-être un peu plus même. Il y a quand même beaucoup de contenu. Et ensuite, Super Continent Limited, qui est un petit jeu qui a été fait dans le cadre d'un game jam qui avait comme thème les technologies anciennes. Et c'est fou comment ils ont bien approché l'idée. C'est un jeu d'aventure. Bon. Texte, souris, là, on s'entend, tu tapes pas du texte, mais c'est un jeu d'aventure où on lit beaucoup de choses puis on suit les événements à travers le texte à l'écran. Ou est-ce qu'on est un hacker dans un monde cyberpunk? Donc, automatiquement, je t'ai intéressé.
Mais c'est ça que j'allais dire. Hein?
T'arrives dans un bureau et le gars n'a pas d'ordinateur. Tout ce qu'il a, c'est un téléphone traditionnel avec un pavé numérique. Wow. Donc, tes actions dans le jeu, c'est de regarder, oui, les discussions, mais tu dois signaler des numéros de téléphone avec le numpad sur le clavier de l'ordinateur. Puis, tu as un petit objet qui est un modificateur de voix. Donc, tu peux prendre la voix de n'importe qui que tu as assez d'informations médicales à son sujet. Puis, tu dois justement comme trouver c'est qui les têtes dirigeantes d'une compagnie. Je n'irai pas plus loin parce que c'est vraiment pas très long. Ça coupe plus court que j'aurais pensé. Oui, ça fait partie de la narrative, mais il y a comme un moment où je suis comme « Ah, shit, ça arrête là. » Genre. Mais n'empêche que dans le cadre d'un game jam développé en 3 jours, super beau concept, bien utilisé. Ça tord toutes les limites de son interface puis de ses limitations. Super le fun. J'aimerais ça voir un jeu de 3 heures monté de même. Ça ne pourrait pas dépasser ça, tu serais fucking tanné là. Mais super beau petit jeu d'aventure. Puis toi, Jeff?
Pour tous les coqs de ce monde.
Aucune surprise.
Ouais, c'est ça. Parle de coq.
Parle de coq encore. Même pas là, c'est que puis il est encore ça.
Ouais.
Bon, allô nouvelle. Hein?
Ben oui.
Ça va être assez court dans l'actualité aussi cette semaine, ben à l'image de tout sauf les bouts où ce qu'on parle, pas préparé.
C'est ça.
Dans une entrevue accordée au Wall Street Journal, le président et CEO de la Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, révélait qu'il y aura des jeux Pokémon sur la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo NX.
Yay!
Une source sûre confirma également à Divan Quest qu'un ours s'achit dans le bois.
Ah oui.
Parce que... son d'un ours qu'on dans a pris bois. Nous-mêmes. On est allé avec un micro.
Mais un ours qui chie dans le bois, là, s'il est tout seul, est-ce qu'il chie quand même?
Ou est-ce qu'il fait du bruit quand même?
Est-ce qu'il fait du bruit quand même, c'est ça?
Ben oui, check! Voilà.
T'as raison.
Mais, dans des nouvelles beaucoup plus importantes, au début du mois de septembre, un utilisateur du nom de Johnny Mac a rendu disponible à tous sur les internets web un mode pour la version PC de Final Fantasy X nommé Tidus Fantasy X. Pour ceux qui seraient moins familiers avec Final Fantasy X, il y a une scène tristement célèbre dans le jeu connue sous le nom de la Laughing Scene. Tidus, notre personnage principal, n'est pas dans son assiette et la sympathique Yuna lui suggère de se forcer à rire à voix haute comme thérapie pour se redonner le moral. Et le résultat est ce bijou pour les oreilles à ne pas confondre avec le cri d'une mouette au ralenti.
You probably shouldn't laugh anymore.
Bon, hein?
Ah non, mais ça, tu gardes ça, là. C'est une soundboard, ben, peut-être que tu le coupes un peu, là, mais tu sais. Mais C'est parfait quand il y a une joke plate.
Ou le petit de Yuna, là, c'était comme. Tu fais la grande. OK. Ouais. Fait que,
oh, tes mains.
Bon, maintenant que tout le monde est à la même page, hein, qu'est-ce qu'il offre, ce mode-là? Eh bien, il remplace tous les dialogues de Tidus par des extraits de son inimitable rire. En voici malheureusement un extrait. Puis, si vous avez remarqué, derrière cet extrait, il n'y a pas que les dialogues qui souffrent... Dialogues qui souffrent de ces changements, mais également la musique.
La musique, oui.
Johnny Mac a créé un instrument MIDI à partir du son de rire de Tidus et l'a assigné à des versions MIDI des pièces du jeu. Alors, la touchante pièce d'intro, To's Anarch End, est ruinée à jamais de la façon suivante.
Fan de Final Fantasy, tu sais.
Mais j'aurais un autre extrait parce que, mon Dieu, j'aurais pu te répéter ce soundtrack au complet. En fait, sur les médias sociaux, je vous donnerai le lien pour l'album complet en YouTube de ce spectaculaire soundtrack.
Chef-d'œuvre.
Voilà, fait que je vais finir l'actualité avec une mention spéciale pour le thème de combat de Tidus Fantasy X.
C'est terrible. C'est terrible. Ça fait mal. Mais oui, aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas vraiment d'épisode que la Terre arrête de tourner et que le passé n'existe plus.
T'es sûr de ça?
Ouais. Oh, ouais.
Okay.
Ben, surtout pour le bout du passé. Là. Pour le reste, ça dépend de notre ego. Donc, 26 septembre... Je commence ça en 1960. Première diffusion télé d'un débat présidentiel états-unien, oui. Le débat opposait Nixon et Kennedy. Et la perception de l'issue du débat était différente selon si les gens l'avaient écouté à la radio ou vu à la télé. L'idée, mettons, qui demandait qui avait gagné, c'était différent. Hein? C'est peut-être un peu la date qui pourrait marquer la fin de l'importance du contenu en politique par rapport à la qualité du contenant.
Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à Divan Quest.
Je fais un petit retour en arrière, là, parce que pourquoi se faire ça toujours dans le vrai sens du temps? Hein? La chronologie, c'est pour les autres.
Sure.
1905, publication par Albert Einstein de sa théorie de la relativité restreinte, qui explique là, qu'une personne peut sembler être une lumière jusqu'à temps qu'elle se fasse entendre, quelque chose de même. Oui, ça ressemble à ça. J'avance en 1969, sortie au Royaume-Uni d'un album qui deviendra un album culte et qui causera de nombreux problèmes de circulation sur une rue en particulier dans ce coin-là. Un album qui s'ouvre sur ces notes précises. Et oui, hein, Abbey Road. Dernier album enregistré par les Beatles. Et fait intéressant, premier album qu'ils ont enregistré sur 8 pistes. Les autres d'avant, des fois, ça a l'air que c'était une solide gymnastique pour enregistrer sur 4 pistes, je pense, de l'autre d'avant. Là. Même 2 pistes, le premier. Là, mais...
Aïe, avec la quantité de trucs qu'ils faisaient sur un album. Ah, non, c'est...
On retrouve aussi sur Abbey Road la présence d'un instrument nouveau à l'époque qui aura été acheté directement à son créateur, un synthétiseur Moog.
Oh!
Ouais. Un des premiers, là, si c'est pas le premier enregistrement là, audio qu'on peut retrouver, où on peut retrouver cet instrument-là, là, mettons que c'est un peu flou, mais c'est sûr que c'est dans les premiers où ça a été utilisé.
Très, très cool.
Ouais. Ben, on avait déjà parlé un petit peu une fois.
Ben oui, ben.
Ouais. 1986, sortie d'un jeu assez légendaire au Famicom à l'époque.
La baisse est malade.
C'est carré. 8 bits, ça aussi, je pense. Ah, 8 bits! Oui, donc, Castlevania, pour ceux qui n'ont pas reconnu.
Qui n'ont pas reconnu les doudidous.
Doudidous. Mais le pire, c'est que, tu sais, je la reconnais plus à cause des remakes que j'ai entendus depuis.
Ben, il y avait un article sur, à l'époque, Castlevania Dungeon, qu'un prof de musique universitaire, ou je crois universitaire, là, je ne veux pas m'avancer trop, où il étudiait la musique de Castlevania, puis il a présenté en cours. Mm-hmm. Mais la musique de Castlevania a eu une identité à partir du deuxième. Parce qu'il y a pas, c'est devenu influencé par le baroque puis beaucoup de mouvements ouais. classiques. Pas dans le premier.
Non, non.
D'où bon. Les didous.
On a comme l'idée, là. L'idée est là, là, mettons. Là.
Et... Ouais, c'est rudimentaire.
J'avance en 1991, où 8 personnes sont entrées dans Biosphère 2, une réplique exacte de l'atmosphère de la Terre en Arizona. Ils ont ressorti exactement 2 ans plus tard, en 1993. En réalité, les résultats sont encore controversés aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que 2 imbéciles ont fait un gros party dans la biosphère comme dans ce grand classique de 1996.
Welcome to Biodome.
Welcome to the future.
Welcome to the place I'm going to drain my lizard.
Viva Los Biodome.
Hey, j'ai juste là, je l'ai écouté trop longtemps.
Alors, moi, c'est un de mes classiques. j'ai un petit amour malsain pour Pauly Shore en général, puis Biodome en particulier.
J'allais dire, ah, Pauly Shore, chance d'arrêter.
Ouais, c'est ça. 1997. Sortie de la version du Nintendo 64 d'un de nos jeux préférés chez Divan Quest, et je parle de Bomberman.
Yay!
Happy birthday to you!
Je commence en 1840 avec la naissance de Louis-Olivier Taillon, qui deviendra éventuellement le 8e premier ministre du Québec sous la bannière du Parti conservateur le 25 janvier 1887. Pour un très long règne de 4 jours.
C'est quand même long sous un règne conservateur.
Quand même. En fait, ce qui est arrivé, là, puis c'est très drôle parce que ça va avec ce que tu as dit, il a hérité du gouvernement de son prédécesseur, John Jones Ross, à ne pas confondre avec John James Charest.
Même combat.
Donc, il a hérité du gouvernement de Ross, qui avait perdu les élections en 86, mais il s'était fait varloper, là, parce que dans le fond, il n'avait pas pris la défense des Métis auprès du gouvernement fédéral. Avec la pendaison et tout ça. Mm-hmm. Donc, les gens l'ont tassé. Il a voulu conserver quand même le Parlement avec ses 26 sièges contre les 33 du Parti national de Mercier. Mais il n'a pas voulu comme transmettre le pouvoir. Il a fini par démissionner puis donner son poste de premier ministre à Taillon, qui a, dans le fond, là, perdu le gouvernement quand il y a eu un vote de non-confiance.
C'est pas d'hier, hein, la merde avec les gouvernements minoritaires.
Non. Mais imagine, c'est parce qu'il était minoritaire, mais ouais. Même pas gagnant, tu sais. Puis il voulait juste pas, en tout cas, tu sais.
Ouais, non.
Voilà. Mais il y avait un truc là, où est-ce qu'il espérait avoir des sièges neutres ou je sais pas trop quoi, là, une patente de gouvernement fédéral aussi. Mettons que ma compréhension de la politique de l'époque, elle est pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être parce qu'il y avait.
Mais ta compréhension est probablement quand même supérieure à l'intérêt de nos auditeurs pour le sujet.
Dans le sujet.
Merci beaucoup.
1881, naissance d'Édouard Montpetit, hein, qui en plus d'être un cégep, était un économiste, un avocat qui a renseigné à l'Université de Montréal, au HEC et à l'École polytechnique de Montréal, entre autres. Je pense que c'était plus facile de se multiclasser à l'époque. J'avance en 1948, naissance de l'actrice et chanteuse Olivia Newton-John, connue principalement là, pour son rôle dans Grease. Petite parenthèse sur Grease. Avez-vous entendu parler de la théorie de Buffy, là, de Sarah Michelle Gellar, qui est sortie dernièrement sur Grease?
Non.
Sa théorie est basée sur le fait qu'au début du film, le personnage de Newton-John est sauvé de la noyade là, par le personnage de Travolta.
Bon, puis là, vraiment, elle est morte, puis c'est tout dans sa tête. Ah, sacré.
Sa théorie, c'est que dans les faits, elle n'est pas sauvée, puis que le film, c'est une hallucination causée par le manque d'oxygène. Là. Son argument, à la fin du film, le char part en volant vers le ciel, vers la lumière. Là. Ouais.
On recommence le débat de la fin de Mass Effect 3. Là. Je m'embarque pas là-dedans.
Fait que vous en pensez ce que vous voulez, là, mais moi, je trouve ça quand même drôle, une théorie comme d'un film vieux de 38 ans, puis que tout le monde dément, t'sais, mais qu'on l'écoute pareil, parce que c'est Buffy qui le dit.
C'est ça qui arrive quand t'as plus la cultural relevance.
C'est ça. Tu fais des bizarres de théories sur un film de 60... un film trop vieux. 1956, naissance de celle qui deviendra la mère de notre sauveur, la Marie, de l'univers post-apocalyptique oui, de James Cameron. Je parle de Linda Hamilton, qui a incarné Sarah Connor, la mère de John Connor, hein, dont le père est né plus tard que lui, mais qui est revenu dans le passé pour baiser sa mère. En tout cas, ça demande à la tête de penser à Terminator. Hein. Ouais,
je suis surpris qu'il n'ait pas envoyé John Connor se parenter lui-même. Là,
pourquoi pas?
Ben, il y a sûrement un film de porn. Que
c'est sûr. Je finis ça en 1980.
Termina MILF ou quelque chose.
Ouais.
MILFinator.
MILFinator. Ah, c'est mieux. Google. Non. Je finis ça en 1980 avec la naissance de deux frères qui, en plus d'être nés la même journée, auront été repêchés dans la même journée, oui, en 99, pour la Ligue nationale. Et qui sont toujours dans la même équipe depuis, une rareté, dans la NLH.
Parle-t-on des frères Cédine?
On parle des frères Cédine.
Hey!
Puis je finis ça sur mon prénom du jour, oui. Combe.
Combe.
Tu sais, comme dans Saint-Combe, là.
Ben oui.
C'est un Saint-Combe, bien Combe. Fait que bonne fête à tous les Combes. Blade of Steel.
Alors, à travers notre... nos élucubrations, hein, voilà. On a quand même décidé de se préparer un petit peu quelque chose pour vous présenter, pour pas vous laisser dans le vide, puis juste faire justement du inside baseball, puis vous compter tous nos problèmes de vie, etc.
Ouais, puis je veux juste dropper des gags basés sur l'histoire.
mettons là. Okay. Mais c'était un de tes bons, ouais. C'était très diverti. Hein?
Merci.
Oh, je vais le couper au montage.
Ouais. Le segment complet.
Oui, c'est ça.
C'est trop bon, ça, c'est dit coupe.
Tu sais, l'épisode va être trop long, là. Jeff est pas là, c'est pour être vraiment pas long. Bon, j'ai décidé de vous parler d'un film que j'avais trouvé hyper intéressant, puis ben, en ayant moins de temps pour se préparer, c'est bon de revisiter du stock qu'on a beaucoup aimé. Je vous parle ici de Indie Game The Movie, qui était rendu disponible en 2012, qu'on peut se procurer à peu près partout maintenant, en fait, tous les abonnés Netflix, ben, y est dessus, ainsi qu'une pseudo-suite ensemble de features qu'on a-t-on découvert en faisant nos préparatifs pour l'épisode, qui s'appelle Indie Game Life After. Et c'est aussi disponible sur Steam. D'ailleurs, c'est un des premiers films à être disponible sur la plateforme, qui est quand même pertinent, puis qui a été disponible à travers plein de bundles à travers les années, donc ça se peut que vous l'ayez, hein?
Dans votre librairie Steam. Tu me dis ça, puis je me dis, faudrait que je regarde. Mais je l'ai écouté sur Netflix, là, mais peut-être que je l'ai sur Steam.
C'est terrible comment on a trop de stock qu'on sait pas. Oh. Bref, c'est un film documentaire qui suit trois développeurs, en fait, les trois jeux indépendants en développement, mais le film n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment, parce qu'il suit trois jeux qui sont devenus des darlings de la scène indie au moment où on assistait à la levée de la révolution indie qui perdure à ce jour, là, puis qui est la moitié du gaming qu'on voit maintenant.
Oui, puis pratiquement la totalité de mon gaming en dehors de mon wow, là.
C'est ça, puis on vit vraiment dans les vagues de ces trois jeux-là. Parce que, premièrement, j'ai une petite satisfaction interne au fait que ces trois jeux qui étaient d'ailleurs exclusifs à la Xbox à la sortie. Pas que je suis un fan de Xbox, sauf que le rôle de Microsoft est tellement, tellement souvent réduit dans tout ça. Parce que le monde dit à quel point Microsoft déteste les indies parce qu'il n'y avait pas de programme d'indie à la sortie du Xbox One, puis que Sony était donc des sauveurs, etc. Mais le indie sur les consoles est né dans les mains.
Ben voilà, Microsoft. C'est ça que j'allais dire. Si tu reviens un peu avant, c'est un peu ce qui a redoré leur blason, là, parce que. Avant qu'ils fassent ça, Microsoft, c'était le démon. Là. Windows, c'était où?
C'est ça. Puis là, ils ont comme ouvert la porte avec Xena, qui était leur plateforme de développement indépendant pour Xbox. Puis au début, c'était à travers le système arcade sur Xbox 360. Puis éventuellement, ils avaient même ouvert le Xbox Live Indie Games, où c'était auto-publié, puis qu'il n'y avait pas de chien de garde, finalement. Mm-hmm. Où c'était les développeurs entre eux qui se classaient si un jeu était valide, puis ils pouvaient se retrouver sur cette plateforme-là. Mais bref, assez. De lichage de cul de Microsoft.
Ouais, quand même.
Ces titres-là, bien qu'ils avaient été tous backés par Microsoft justement à ce moment-là, je vais les nommer. Là. On parle de Braid de Jonathan Blow, développé par Jonathan Blow. On a Fez par Polytron, mais principalement par Phil Fish. Et Super Meat Boy de Edmund McMillan et de Tommy Refines. Ces trois jeux-là, c'est ça, avaient commencé comme des exclusifs, puis sont trois jeux. Plus grand que nature, là, ces trois véritables monuments du indie. Fait que la chance que le réalisateur ait pu accéder à tout ce monde-là, c'est magique. Ça crée vraiment une belle capsule dans le temps sur cette révolution-là, justement, qu'on a cité à travers ces années-là.
Oui, Phil Fish, dont j'ai appris le vrai nom en écoutant.
Ben, Philippe Poisson.
Philippe Poisson, voilà.
Bien sûr. Montréalais de sa personne. Hein? Mais justement, puis ce qui rend le documentaire hyper intéressant, c'est que clairement, le réalisateur a probablement choisi les jeux qu'il allait parler à cause de l'étape du développement où ce qui était. Parce qu'on assiste à. On voit des discussions, on voit très peu d'éléments, mais on voit des discussions avec Jonathan Blow, qui lui est après la sortie de son jeu. Braid était sorti plus tôt. Puis il avait déjà été un succès énorme. Puis, bref, le gars était après, tu sais, c'était mission accomplie, puis il pouvait parler en rétrospect beaucoup de ce qui se passait.
Ouais, puis on le voit se rouler dans ses piles de cash. Puis...
non, mais Colic, c'est dur de regarder des entrevues avec Jonathan Blow. Si vous connaissez pas du tout le personnage, là, c'est dur de voir une entrevue et de pas penser à Sheldon dans Big Bang Theory.
Okay.
Parce qu'il est stiff, puis le gars réfléchit évidemment ouais. beaucoup, mais ça lui donne un air un petit peu machinal.
J'ai vu le documentaire, ça fait longtemps, fait que il y a beaucoup de détails comme ça qui m'échappent.
Mais bref, le premier jeu qu'on voit, c'est Sib Raid. Ouais. Fait qu'on a comme le côté rétrospectif quand on voit des entrevues avec Jonathan Blow. D'un autre côté, on a Phil Fish qui développe Fez, qui est en plein développement.
Oh,
c'est
dedans,
la quatrième année du développement. Ils sont pas prêts de sortir. Ils vont faire des événements, des PAX, puis des événements.
Puis là, ça plante, puis ça bug.
C'est ça. Fait que lui, on le voit en plein dans le jeu. T'sais, c'est déjà comme. Son jeu est déjà le darling là, des conventions. Le monde sait que ça va être quoi de gros. Il y a beaucoup d'intérêt pour son jeu. Il y a un gros buzz. Mais il est dans sauce. Puis ouais. le développement dure depuis longtemps. Puis. Fait que bref, c'est vraiment comme l'enfer du développement qu'on voit un peu à travers Phil Fish. Puis le gars est quelqu'un de très, très abrasif comme personnalité parce qu'il se gêne pas pour dire ce qu'il pense. Puis malgré que je sais qu'au niveau de la distribution, sa compagnie, Polytron, a été impliquée, ça paraît pas dans le montage. Jamais la personnalité de Phil Fish est redorée. Puis je trouve ça très, très louable. Parce que, parce que il aurait pu avoir justement une espèce de regard éditorial ou whatever. Là. Mais il paraît pas forcément bien parce que le gars est extrêmement explosif. Puis il va peut-être dire un petit peu trop souvent ce qu'il pense vraiment. Puis ça lui rendra pas service.
Il a l'air brûlé dans le documentaire. Ah, ça paraît. Là.
C'est ça. Fait que ça montre l'enfer du développement. Voilà. Puis après ça, à travers ça, on voit Super Meat Boy avec Edmund McMillan, qui est le gars le plus fucking attachant du monde, et Tommy Griffiths, qui est le classique programmeur awkward, névrosé. Fait qu'il y a vraiment comme une belle dualité entre ces deux-là, mais Edmund est écœurant parce que c'est vraiment comme une personnalité où est-ce que tu vois quelqu'un qui a un imaginaire étrange, qui a probablement un côté sombre à sa personnalité, mais qui a trouvé moyen de le gérer de façon équilibrée à travers un imaginaire fucking.
Oui, parce que Meat Boy...
Mais c'est ça, mais sans vendre, il n'y a pas de punch, c'est un documentaire là quelque part, là, mais quand il explique Super Meat Boy, si vous ne connaissez pas le jeu, là, c'est un platformer vraiment extrêmement difficile qui repose sur des contrôles parfaits.
Oui, vraiment.
Puis on joue un bonhomme fait en viande. Puis quand il court à terre, ça fait... C'est super agréable. Ça me fait plaisir. Et bref, il est complètement en viande, puis il laisse des traces de sang partout. Puis il doit sauver Bandage Girl, la fille Plaster. Puis son ennemi, c'est Dr. Fetus, qui, à chaque fin de tableau, bat Bandage Girl, puis t'envoie chier. Genre. C'est, en gros, c'est ça. Sauf que quand il prend la peine de t'expliquer pendant 2 secondes que Meat Boy, c'est un homme en viande, il n'y a pas de peau, il n'y a aucune protection du monde extérieur, puis. Son partenaire dans la vie, c'est une fille en passement. C'est la métaphore te fesse d'en face. C'est juste comme, OK, non, c'est pas juste un gros concept stupide, gras, pour faire des jokes cheap, un barman qui fait des fuck you. Il y a une belle métaphore à la faiblesse. Puis en fait, quand tu vois le gars, tu comprends qu'il se sent peut-être un petit peu comme ça dans la vie, puis sa blonde est peut-être un petit peu sa bandage girl. T'sais, le gars qui fait les jeux, le jeu le plus fucké des trois, c'est le gars qui a l'air le plus équilibré. Puis les deux autres gars qui ont l'air un peu stiff, puis à la limite, l'autre qui a l'air plus normal, là, même s'il a l'air un petit peu brûlé, font des jeux qui sont hyper high concept puis super genre prétentieux. Fait que, bref, le jeu le moins prétentieux a probablement le plus de profondeur dans son concept, mais sans rien enlever aux deux autres jeux, parce que c'est trois jeux que j'adore. D'autant qu'on peut adorer un jeu.
Mais Braid, c'est un des premiers indies que j'ai joué. Je l'ai pogné dans un des premiers bundles que j'ai acheté, puis Colin,
c'est... Pour ceux qui connaissent pas Braid du tout, c'est un platformer, mais que chaque monde différent amène une mécanique qui manipule le temps.
Ouais.
Mais c'est... Ce jeu-là repose strictement sur l'épiphanie, le moment d'épiphanie quand tu réussis à trouver la solution à un puzzle. Puis c'est 4 heures intenses d'épiphanie. Puis je dis 4 heures, là. Ça, c'est parce que je l'ai fait à deux avec quelqu'un qui était vraiment bright. Là. Sinon, ça peut être pas mal plus long que ça, mais c'est des épiphanies par-dessus des épiphanies. Puis, écoute, tu finis, t'es post-coïtal. Écoute, t'as l'impression qu'il faut que tu t'allumes une top puis que tu y payes à déjeuner. C'est tellement juste des moments de satisfaction un par-dessus l'autre. Puis Fez, c'est un autre platformer fucking, sauf que lui, on peut faire tourner l'environnement. Puis chaque fois que l'environnement tourne, il tourne vraiment en 3D, mais il devient aplati une fois qu'il est tourné. Donc, une plateforme qui peut être au loin, quand on la voit sur un autre angle, ben finalement, est accessible. Bon, c'est beaucoup plus facile à montrer qu'à expliquer. Là. Fait que, mais bref, c'est trois jeux qui sont vraiment magnifiques. Puis l'histoire derrière eux est tellement bien contée que si vous avez le moins d'intérêt pour les jeux puis vous n'avez pas vu ou entendu parler de Indie Game The Movie, ben je vous suggère de faire ça. C'est très facile à écouter et c'est disponible partout.
C'est excellent. Moi, j'ai adoré.
Voilà, vous avez nos deux votes. Puis je suis sûr que si Jeff était là, il nous dirait que...
Pour tous les coqs de ce monde...
Bon, mais si vous êtes un coq de ce monde, je vous suggère d'écouter Indie Game The Movie.
Tout à fait.
You.
Mais oui, moi on s'est dit, hey, là, on manque de temps, on fait pas un vrai épisode, on se préparera pas trop. Fait que.
On a installé Dan devant un micro, on s'est dit, vas-y, parle. Mon homme!
Oui, le gars! J'ose! J'ai décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu. Tu sais, ça fait plusieurs épisodes que quand on regarde de ce qu'on a fait cette semaine, c'est genre 2-3 gogos puis j'ai joué à WoW, là.
Ça va vraiment filer comme un épisode de B-Sides. Hein? Ouais, c'est on a toutes mis nos bonnes tunes sur le premier side, puis là, ben, on parle d'un film, puis on parle de World of Warcraft.
Ouais, c'est ça. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que j'ai pris le temps de réfléchir. T'sais, ça faisait quand même un bon bout de temps que je jouais pratiquement pas, puis pourquoi je suis retombé dedans autant, pourquoi j'ai réussi autant à avoir de quoi... Pour vrai, il y a quelque chose dans Legion qui fait que tu as le goût d'y retourner. Fait que j'ai essayé de réfléchir un petit peu, puis j'ai décidé de vous expliquer un peu une des raisons, je pense, qui fait que les joueurs raccrochent à ça, surtout les joueurs qui jouent depuis assez longtemps ou qui ont compris puis qui sont intéressés à l'histoire depuis longtemps. Fait qu'un peu d'histoire, justement, de World of Warcraft pour se dire un peu d'où on vient comme personnage. Hein, parce qu'on se rappelle que notre personnage vient du tout début de la première expansion de WoW.
Il a survécu à tout ça.
Puis il a été impliqué dans tout ça, là.
Quand tu dis survécu au début de la première expansion?
Ben, avant même la première expansion. Okay, okay. Si tu as commencé à jouer dans WoW quand il a été lancé, ton personnage était là au début, puis tu as des rats, puis tu es devenu plus fort.
Rat Slayer.
Ça serait un bon titre, on va le proposer à Blizzard. Je pense qu'il l'a pas. Donc, tu sais, dans la version originale de Warcraft, là, quand on regarde le endgame, si on veut, la fin de jeu, les derniers raids puis les derniers boss, ben, on était dans une armée pratiquement. Là. C'était des raids de 40 personnes, t'es un bonhomme pas de face dans une armée de 40 qui attaque quand même des personnages importants, les Elemental Lords, là, qui sont comme les genre des seigneurs élémentaux, des quatre éléments principaux. T'en attends-tu deux dans la première expansion? Tu tues directement...
Ça chôme pas.
Non, c'est pas de niaisage. Il y en a quatre, on a tué deux.
Ça te prend un coordonnateur pour être sûr d'avoir tout le monde pour ton raid, mais quand vous ramassez toute la gang, vous varlopez des élémentaux.
Tu sais, moi, j'ai pas vécu cette époque-là des raids, là, mais il semblerait que c'était pas gérable vraiment. Mais en fait, on a pu le vivre dernièrement. Ils ont fait une genre de...
Pour une courte période. Un rétro week-end.
Ben oui, quasiment. où est-ce qu'on pouvait se mettre en queue dans le LFR, le Looking for Raid, qui gère les groupes tout seul, mais pour aller refaire un Molten Core, qui était un des premiers raids à cette époque-là, qui a été comme, bon, mis au niveau pour la difficulté, mais que les monstres étaient tous là, les boss étaient tous là, puis tu sais, c'était pas difficile dans le sens où les mécaniques sont très simples quand on compare à ce qu'ils sont rendus maintenant. Mais gérer 40 personnes, là, c'était n'importe quoi pareil. Là. Je connais pratiquement personne qui l'ont fait plus qu'une fois.
Ah, puis oui, gérer 40 personnes, mais hey, designer un boss pour 40 personnes.
Les pièces sont gigantesques, c'est quelque chose. Mais c'est le feeling. T'es dans une armée, tu tues fucking Ragnaros qui est comme le seigneur du feu. Pis, t'sais,
t'as du monde qui sont en connexion 56K dial-up. Là, tout se met à laguer parce que t'es 40. Quelle bonne décision à cette époque-là.
Mais au niveau de l'histoire, parce que c'est un peu l'idée, ben on tue quand même des seigneurs élémentaux, mais on est dans une armée. Fait qu'on est un faceless. Là. On est un soldat. Puis bon, on fait des affaires awesome, mais ça passe un peu dans le vide. On arrive dans Burning Crusade, la première expansion. On fait partie d'une équipe, dans le fond, qui va aller attaquer les repères des gros méchants. T'sais, on est rendu dans des raids de 25, donc on est plus comme dans une situation où est-ce que on ressort déjà un peu plus du lot. On attaque les gros méchants, mais dans le fond, soit qu'ils se sauvent, quand on pense à Kael'thas, ou est-ce qu'on l'attaque, on pète, on le tue, ça explose, puis lui...
Il frise sa moustache entre ses doigts, puis il se sauve en courant sur
le... Ben, techniquement, il est là à terre, mais tu te rends compte que... plus tard, c'était juste un setback. Là.
C'était un subterfuge!
Ben, c'est ça. le dernier boss de la fin de cette expansion-là, qui était Illidan, un gros méchant démon qui date de Warcraft 3, ben, quand on arrive à le battre, il y a quelqu'un qui arrive pour le capturer et qui dit non, il était souhaité emprisonné, on le remprisonne. Fait que ton personnage a beau avoir fait la job, c'est pas toi qui finis, si on veut, la job. Mm-hmm.
Tu laisses la gloire au NPC.
Voilà, c'est un NPC qui la recapture, puis tout ça rejoue dans l'expansion actuelle, là, mais c'est pas là que je m'en vais. On avance, Lich King, l'expansion qui était la plus grosse dans WoW, qui était la plus intense. Encore là, on fait partie d'une équipe de héros, en même grosseur à peu près, une 25 personnes, tu sais. Bon, ça change plus tellement après. On commence à se faire un peu reconnaître par certains NPC dans le jeu, tu sais, qui font « Ah ouais, t'as déjà fait tel truc », tu sais, parce que bon, ça se recoupe un petit peu. Mais tu sais, au niveau des actions importantes puis héroïques, ben la plus importante qu'on fait, personne ne le sait. On sauve la planète de façon subtile, personne ne le sait parce qu'on active une device qui aurait dû resetter la planète, genre. pour rester à peu près ça. Puis, dans le fond, pour empêcher ça, on se bat contre une espèce de construction des titans. Puis là, on le bat, puis il fait « OK, ben je comprends que vous êtes assez fort pour protéger la planète. Je vous fais confiance. » Mais, tu sais, dans le fond, la planète allait être resettée, là. Fait que ça a été fini, mais personne ne le sait. Ça s'est passé dans une petite salle fermée, tu sais. Fait que nous, on le sait, mais les gens ne savent pas. À la fin de l'expansion, on se bat contre le Lich King. Mais dans le fond, comme en se battant contre le Lich King, arrive l'affaire qui est la plus drôle quand tu le sais pas. Il arrive à 10%, puis il te tue. Il tue toute l'équipe. D'un coup, bang, pouf, tout le monde meurt. Puis c'est très drôle parce qu'au début, il n'y avait pas enlevé le bouton pour release. Quand on meurt, il y a un bouton pour release, c'est pour relâcher de notre corps puis courir en fantôme. Là.
Ouais.
Fait qu'il y a bien du monde les premières fois qui ne savait pas puis qui cliquait. Mais dans le fond, c'est normal. C'est du roleplay. Ce qui se passe, on meurt toute la gang. Fait que tu comprends que ton personnage n'est pas si awesome que ça. Puis là, ben, c'est un des gros paladins qui était comme gelé dans un bloc de glace, tout le maudit fight. Puis là, d'un coup, il pète la glace, il fait revivre tout le monde. Puis là, il y a comme un dernier 10% de juste on tapoche des pitons pour le plaisir parce qu'il n'y a plus de mécanique.
C'est
on
cinématique,
le
tue, puis c'est tout. Là.
Mais non, au bout de la ligne, le héros dans ce fight-là, c'est pas tant toi que le gros paladin, tu sais. Arrive Cataclysme où est-ce que la planète est détruite par Deathwing qui sort, qui fait des destructions, ils ont refait le monde au complet. Il y avait un achievement de mourir brûlé par Deathwing, random sur une map.
Pendant que ça arrive.
Ouais, ça m'est arrivé, moi, qu'un petit bonhomme bas level qui est en train de faire des petites quests caves. Deathwing passe, mais il fait une zone au complet. Puis c'est vraiment ça, là. Il passe la zone au complet en feu. Puis là, tu meurs, t'as un achievement. Hein, coudonc. Bref, ben oui, fait qu'on se bat contre Deathwing qui veut détruire la planète. Puis les NPC commencent à nous reconnaître, là. Ils apprennent qu'on était dans les teams qui ont tué tous les autres avant. Fait qu'ils nous reconnaissent. Puis on commence à être un petit peu quelque chose.
Mais,
au dernier boss. On se bat contre Deathwing, c'est sur deux fights, c'est une des affaires les plus épiques que j'ai vues dans WoW. Tu te bats dessus, tu y arraches des plates d'armure pour le faire planter, tu te bats après ça. Mais à la fin, quand tu le tues, ben c'est Troll qui arrive. Pour ceux qui connaissent Troll, là, qui est comme le chaman, un des plus connus là, depuis Warcraft 3.
Un orc,
un des premiers qui est né sur Azeroth après les événements de Warcraft 2. Que avec l'aide des autres dragons, t'es comme finissent par tuer Deathwing, tu sais, fait que c'est comme, ok, t'sais, c'est cool, là, il fait un move quasiment Sengoku de Dragon Ball où est-ce qu'il tire un rayon de lumière puis qu'il meurt, tu sais. J'étais comme, ok, c'est cool, mais on a fait de la gros de la job, mais encore là, le héros, c'est pas nous. Arrive Mist of Pandaria, tu sais, on continue d'avancer, là. Là, on est comme à la tête du groupe qui est envoyé par soit le roi ou le War Chief parce qu'on vient de découvrir cette île-là des pandas qui vient de réapparaître. Fait qu'on est à la tête de vraiment l'équipe qui y va. Fait qu'on est, on a déjà une position, un standing, on est reconnu. On est les premiers à se rendre là, on participe à des offensives. C'est nous autres qui mènent un peu. On se fait donner des ordres par les grands commandants, mais on gère le reste, tu sais. Fait qu'on est déjà un peu plus important. Mais encore là, dans les derniers boss, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Le dernier boss, on arrive pour le tuer parce que, bon, c'est le méchant Garrosh qui a comme fait plein d'affaires pas cool. Ben, on arrive pour le tuer, puis t'as les NPC qui nous arrêtent pour dire « Ah non, on va lui donner un tribunal, on va le faire passer devant un procès. » Pour vrai, là, c'est comme « The fuck, le gars, il a fait exploser des villes au complet. Il a détruit un continent quasiment lui tout seul. Puis on va faire un procès. » OK, fait que là, nous, on l'a tué, mais on l'a pas tué.
À moins que ton personnage soit un avocat, t'es pas celui qui est avec toi.
Ben, c'est ça. T'sais, malheureusement, Phoenix Wright n'est pas une classe dans World of Warcraft. Donc, mais parenthèse, par exemple, intéressante, t'sais, l'idée qu'on devient de plus en plus important est là et est présente parce que dans un des livres, je pense que c'est dans War Crimes, qui raconte justement ce procès-là, qui est quand même vraiment bien à lire pour ceux qui trippent, là. Ben, il y a des références à un moment donné à une troupe de héros qui sont venus puis qui l'ont détruit. Fait que t'sais, c'est comme dans le livre, il y a une référence à toi.
Les événements sont importants.
Tu sais, tu fais comme, ben moi j'ai joué, c'est moi qui ai fait ça. Fait que si tu te dis, tu oublies le reste, qu'il y en a des millions qui ont fait la même chose, là, ben ok, dans le livre, il parle de moi. C'est cool. Il me nomme pas, mais c'est la troupe de héros qui ont attaqué. Fait que c'est moi. Tu sais, c'est quand même le fun. Là. On arrive dans l'avant-dernière expansion, dans Warlords of Draenor, où est-ce qu'on va comme dans une espèce d'univers parallèle sur Draenor. Puis là, ben là, on est comme le big cheese. Là. On est. moi, j'écoute des Scrubs dernièrement.
Le gros fromage.
On est le gros fromage. tu sais, on devient, dans le fond, le commander de l'armée qui est sur Draenor pour attaquer l'Alliance, puis attaquer les méchants, puis ta patente. Là. Fait qu'on est comme le commander. Puis on a vraiment, comme ce titre-là, les personnages s'adressent à nous en nous appelant commander. Tu sais, on commence à être big.
Pas Big Cheese?
Malheureusement, pas Big Cheese. Oh. Ça serait un bon title aussi.
Ça serait carré.
Sérieux, Killer of Rats, Big Cheese. Mais voilà, fait qu'on on répond à peu près à personne. On est vraiment comme le top. Mais le dernier boss se sauve une dernière fois. Là, c'est pas la faute à personne cette fois-là. C'est pas quelqu'un qui nous empêche de le tuer. C'est vraiment juste parce qu'il se sauve dans un portail. Puis ça nous amène à l'expansion présente. Dans le fond, l'expansion présente dans Legion, c'est la plus grosse attaque, la plus grosse invasion d'Azeroth par des démons. C'est comme la troisième invasion sur Azeroth, mais je pense que c'est la plus grosse. Puis pour la suite, je vais vous parler principalement de ce qui se passe avec mon chaman, parce que chaque classe a sa propre histoire qui est, à ce que j'ai compris, aussi intense les unes que les autres. Tu sais, dans le fond, nous, on arrive, l'expansion commence, les mages décident de téléporter une ville entière où est-ce que les démons y sont, parce que pourquoi pas téléporter une ville quand on peut...
Ben plus simple.
C'est ça. Mais dès qu'on arrive dans cette... Dès que la quête est faite, mettons, qu'ils téléportent la ville, ben, ça prend 15 secondes, t'es dans la ville, t'as comme pas de quest, t'as rien à faire. T'sais, t'as comme rien qui t'indique quoi faire. Fait que tu fais comme 15 secondes dans la ville. Puis là, pouf, quelqu'un qui pop, qui arrive pour te voir, puis qui dit, OK, là, je te cherchais, ça nous prend, mettons, dans mon cas, tous les plus gros chamans, on a besoin d'aide, là, il y a des affaires comme... Puis là, tu te rends à un endroit où est-ce qu'il y a plusieurs chamans. Puis, de fil en aiguille, tu te ramasses à te faire dire, ben... OK, ça nous prend des armes hyper puissantes qui deviendront nos armes qui vont monter avec nous toute l'expansion, les Artifact Weapons. Qui, tu sais, on a besoin des chamans puissants. Je pense que t'es la meilleure personne pour faire ça. T'sais, toi.
T'es ciblé. Là.
Toi, t'es ciblé. C'est toi qu'on veut. C'est des armes qui n'ont pas de sens. Tu sais, mettons, pour le chaman élémental, qui est comme trois classes, si on veut, à l'intérieur d'une classe, trois sous-classes, si on veut, qui font les rôles un peu différemment. Ben moi, c'est une arme qui m'explique que ouais, elle n'a pas été utilisée depuis comme tel dune qui est un espèce de demi-dieu. On n'a pas été capable de l'utiliser depuis parce que personne qui était à savoir pour s'en servir. Même un tel que tu as tué dans deux expansions avant sur Pandaria, il a essayé de s'en servir et il n'était pas capable. Fait que toi, vas-y, puis tu t'en sers. Tu sais, ça t'es rendu à ce niveau-là. Tu joues un Enhancement Shaman, tu te ramasses avec le fucking Doomhammer. Puis ceux qui connaissent un peu l'univers, là, c'est comme une des armes les plus reconnues. C'est l'arme de Troll, c'est l'arme qui a été utilisée pour libérer les orques, c'est comme un marteau, tu sais, puis c'est toi qui l'as, là, dans tes poches. Là. Moi, personnellement, je m'en sers pas, je suis pas un Enhancement Shaman, mais je l'ai dans mon sac.
Sauf que tout le monde en a une.
Oui. Mais ce qui me fait me sentir épique présentement, c'est de pas penser à ça. Rappelle-moi le pas.
Excusez.
Puis pour l'autre spec de Shaman, c'est le sceptre d'Al-Shara, qui est comme une des personnes qui est définie souvent comme la magicienne la plus puissante qui a jamais existé.
Okay.
Puis, tu sais, toi, tu l'as.
De même, là. Ouais.
Fait que toutes des armes qui n'ont pas de maudit bon sens, tu sais, puis tu le sais que tout le monde en a une, mais oublie ça, là, t'es comme, OK, ouais. J'ai ces armes-là. Tu sais, les paladins vont aller chercher Ashbringer, qui est comme l'épée de paladin la plus connue, puis, tu sais, c'est toutes des armes comme ça. Bon, il y en a beaucoup qui ont été inventées puis qui ont une histoire pour les... Tu sais, parce qu'il fallait qu'il y en ait assez, mais...
Pour qu'il y ait une histoire là. Ouais.
Mais c'est tout le temps des armes qui n'ont pas de bon sens de même. Puis c'est pas juste ça, là. Là, on est en train de ramasser des alliés pour se battre contre les démons. Tu sais, on comprend qu'ils sont tellement forts, il faut se ramasser des alliés. Puis mes alliés, ben c'est les Elemental Lords que je parlais tantôt, là. Ceux qui restent ou leur descendance, mais direct, là. Fait que je vais convaincre, genre, les seigneurs élémentaux, là, que j'ai pas tués, de s'allier à moi parce que les démons sont vraiment plus une menace. Hmm. Puis tu retournes dans les endroits où est-ce qu'il était, tu sais, tu retournes dans les Firelands pour convaincre le fils, si on veut, là, de l'autre Elemental Lord. Tu sais, fait que tu vas les chercher. Fait tes alliés, c'est à peu près les affaires les plus puissantes qui existent sur sa planète.
Fait que finalement, toute l'expansion a bâti, a payé hommage à tout ce que tu as joué pour te rendre
oui.
là.
Le
Python a payoff. Oh, oui. A payoff tout ton chemin.
Puis c'est une des choses que tu entends le plus souvent, tu sais, dans tes quêtes, tu vas à plein de places que tu as visitées dans les autres expansions. Puis, tu sais, ils te font pas suer, là. Ils te mettent un portal, là.
Mm-hmm.
Bon, hey, il faut aller là. Le dos, il est ouvert un portal. Fait que tu cliques sur le portal, t'es rendu. T'as pas besoin de voyager pendant 3 jours pour. Mais t'arrives, puis t'es à la même place que t'étais, tu sais. Fait que, ouais. Puis, quand tu fais toute ta quest chain de ton Order Hall, parce que chaque classe a un espèce d'endroit où est-ce que la classe se rejoint, tu sais. Fait que t'as des gens autant de l'Alliance que de la Horde à la même place, mais tu te bats pas,
mm-hmm.
C'est ta classe. Ta classe ensemble se tient. À la fin de la chaîne de quest, ben t'as un titre. Puis pour le chaman, c'est Farseer, qui est comme le titre le plus prestigieux que tu peux avoir comme chaman. Il y en a comme 4-5, puis toi, t'en es un. Bon, OK, toutes les autres, ils l'ont aussi, petite, mais... tu sais, fait que t'as les Archmage, les Archdruids, les Archdruids. La semaine était longue. Fait que ton titre va avec ta classe, mais est un des titres les plus prestigieux que tu peux avoir. Ce qui est quand même assez... Fait que tu te sens fucking badass, là.
Nice.
C'est ce qu'ils réussissent à faire, parce qu'avant... Tu te sentais hot, mais tu te sentais jamais badass à ce point-là.
Mais est-ce que ça va finir par pointer vers la fin du contenu pour WoW?
Ce serait surprenant, là, parce que je pense que autant d'un niveau ben économique, ça rapporte encore beaucoup d'argent, mm-hmm. mais les joueurs voudraient probablement pas que ça arrête, sauf que je pense que l'idée, c'est qu'il était temps qu'ils fassent un coup de barre pour ramener du monde.
Mm-hmm.
Puis je pense que c'est l'expansion qui, dans les premières journées, s'est vendue le plus comme ever, là. Dans les premiers jours, a même battu Lich King. Sur le long terme, est-ce que ça va rester? Peut-être pas, mais...
Mais d'avoir un si beau payoff que ça après justement une dizaine d'années, là...
Voilà.
C'est le genre d'affaire que c'est comme... Ah, je suis quasiment triste de ne pas avoir participé. Parce que quand tu as tout ce bagage-là, tu pourrais comme aller jouer là, tout le content, là, ben, presque tout le content, puis te rendre là.
Oui.
Mais ça n'a pas la même valeur que si c'est 10 ans de ta vie.
Dans mon cas, moi, j'ai commencé dans Lich King à jouer puis à raider. Donc,
n'empêche.
Ça fait quand même longtemps, puis j'ai pas fait les deux premières expansions, mais bon, je connais assez l'histoire pour savoir ce qui s'est passé. Fait que oui, Lich King, puis tout ça, j'ai tout vécu ça, puis là je suis rendu Farseer Sirius. Là. Mm-hmm. C'est la première fois que je change mon titre depuis que j'ai le titre Professeur Sirius, parce que c'est beaucoup trop drôle. Mais tu sais, c'est.
Ouais, ben, puis c'est ça, tu peux toujours. Un jeu peut toujours. Genre, t'arrives dans Skyrim, là, ils peuvent te donner genre. T'as l'épée la plus légendaire du monde. T'as joué 100 heures.
Ouais,
c'est cute, là, mais tu sais, t'as juste comme passé à travers. Going through the motions.
T'as
fait ce que t'avais à faire, tu l'as. Là, c'est. Ça file comme un accomplissement.
Tu sais, dans le cas du Doomhammer, là, j'ai de la peine de pas jouer cette voyons. Ce talent tree-là. Là. J'ai de la peine de pas jouer la Nightwing Shaman quasiment pour pas utiliser le Doomhammer. Là, mm-hmm. Parce que ce marteau-là, il est là depuis. Warcraft 3, puis même techniquement dans le lore depuis Warcraft 2. Là.
Ouais, je le connais pas vraiment, mais j'en vois des répliques d'inconvention.
C'est ça.
Fait que c'est quand même quelque chose de huge.
C'est un marteau qui existe depuis toujours. T'sais, c'est quand même impressionnant de dire, ben là, il est dans mon sac, puis moi, je m'en sers même pas, parce que, tu sais.
Puis là, y a-tu un héros qui vient te stabber la fin de l'histoire?
Ben,
ou,
je sais pas, on en reparlera à la fin de l'histoire. Pour l'instant, là, les raids commencent, mais en même temps, ils ont tué des personnages importants. Ils ont tué le roi de Stormwind. Ils ont tué le Warchief de la Horde. Pendant les quest chains, je m'excuse si je spoil quelque chose à quelqu'un qui n'est pas encore rendu level 110, mais ils tuent un des dragons anciens en le rendant corrompu. Ils ont corrompu des demi-dieux qui sont là depuis toujours. Est-ce qu'on va les sauver ou juste les tuer? Je ne sais pas, mais il y a comme...
À suivre.
Ils font un traitement Game of Thrones là, présentement. Là. Ou est-ce que, lui, là, tu le connais, tu l'aimes, là? Ben, il est mort.
Voilà.
Fait que j'ai hâte de voir. Fait qu'à la fin de l'expansion... je pourrais faire un suivi sur est-ce qu'ils m'ont comme arraché le kill, je serais surpris.
Ouais.
Avec le build-off, avec tout ce qu'ils me donnent, c'est quand même surprenant qu'ils me laissent pas moi-même tuer le boss.
Très
fait
cool.
Ça, j'ai hâte de voir, mais pour vrai, c'est ce qui fait que je joue autant puis que j'ai autant de fun. Je me sens fucking épique, malgré ce que ma blonde qui est une littérature me dit. Là, quand je disais ça, elle me dit « mais c'est pas ça être épique. » C'est
ah.
« OK, mais je me sens épique, pareil. » Réflexion. Ça prend Jeff.
Ben ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais. Si Jeff est pas là, on ne peut pas garder penser. Là, moi, je regarde les notes qu'on avait pour le show. Là, évidemment, c'est le moment où on disait qu'on allait parler un petit peu de. Ben là, c'est écrit du micro-épisode. Mais ça fait bon. Hein? Fait que ça va être un épisode complet, même plus long que ce qu'on fait récemment.
T'as dit Dan parle de WoW.
Non, mais en fait, ben, je suis content qu'on puisse vous en offrir au moins autant de contenu en espérant que ça vous satisfasse, bien sûr, oui.
Ouais. Ouais. Ben, petite parenthèse, on ne l'a pas dit au début, justement, il y aura un épisode de moins là, dans le cycle, on fait un petit saut.
Voilà, fait que si vous voulez vraiment avoir du stock pendant deux semaines, ben arrêtez maintenant, puis la semaine prochaine, pèsez supplé.
Comme ça, vous allez avoir... C'est petit 10 minutes qui
reste. Voilà le petit outro. Mais c'est ça, on voulait prendre un peu de temps justement pour vous mettre en situation. Comme je disais tantôt, là, faire du inside baseball, c'est-à-dire vous expliquer où ce qu'on en est dans le show, puis ce qu'on est en train de se questionner, puis voir où est-ce qu'on veut aller avec ça. Puis évidemment, ben ça dépend du monde qui nous écoute. C'est sûr que, bon, on n'est jamais à merci du monde qui écoute le show parce que ça ne donne pas une galice de scène.
C'est sûr.
On le fait parce qu'on aime ça faire ça. Puis comme j'ai toujours dit, ben, quand j'ai surtout ramené dans l'épisode anniversaire, on le fait surtout pour présenter du stock à nos partenaires de table,
ouais.
À ceux qui nous écoutent puis qui peuvent réagir immédiatement. Mais on se dit que si ça peut intéresser eux autres, ben ça va intéresser d'autres.
Ben voilà, puis en même temps, si on voulait juste écouter parler avec des micros, on peut... on le fait avant le show. Là.
Ouais, c'est ça.
Disons, on aurait jamais payé ça sur Play, puis ça serait fini.
Ouais, écoute, on t'avait de se partir un Patreon, puis de juste allumer le micro d'avance, juste pour faire du contenu de plus, c'est super payant.
Ouais, le pire, c'est que ça pourrait être drôle.
ça serait très peu filtré.
Ça serait peut-être dangereux.
Mais c'est ça. Mais bref, ce qui est arrivé cette semaine un peu avec ben, la vie, hein. On travaille tous beaucoup. T'sais. Moi, étant programmeur, ben, des fois, j'ai ma job le jour, mais j'ai des fois des contrats personnels qui peuvent m'occuper des soirs de semaine. Ouais. Pis qui...
Ma rentrée scolaire, moi, est un peu intense comme comparé à d'autres que j'ai vécu dans les dernières années. Me demande plus de temps. Puis mes implications à l'extérieur aussi me demandent du temps. Puis cette semaine, c'est tombé tout en même temps.
Ben, c'est ça. Puis bon, on fera pas un dessin avec JF qui est à 6 heures de décalage horaire. Fait que déjà, toute la logistique que ça a été de faire le pod à distance, qui, vous en avez aucune idée, là, mais c'est un... Écoute, c'est à peine descriptible à quel point c'est l'enfer, et technologiquement, et... L'Internet en Égypte, c'est pourri. Okay?
Ouais.
C'est vraiment très difficile à faire. Puis là, ben, ils travaillent sur des heures weird, puis ça, ils travaillent beaucoup de soir, ce qui fait que présentement, ben, on n'a pas été capable de trouver un moment pour le faire avec lui. Anyway, il n'aurait même pas été prêt, parce qu'on avait eu... Il y a une semaine de Mongol, comme on a souvent. Puis c'est ça. Puis là, on s'était dit, on a failli juste dire, fuck it, on n'enregistre pas. Il y a deux semaines, il n'y a rien. Là. On est juste incapable de fournir. Puis là, ben, Dan, dans son infinie sagesse, est arrivé. Puis il a dit, non, mais on aurait peut-être juste prendre le temps d'en parler avec le monde.
Ouais, puis tu sais, pour être franc, j'avais préparé le aujourd'hui dans l'univers du Vanquish. Ouais, je trouve ben, ça plate de le scrap. Non, c'est pas
ça. J'ai travaillé. On fera juste un épisode, c'est juste l'univers du Vanquish.
C'est juste moi. C'est Non, mais pour vrai, je me dis que ça serait plate qu'il n'y ait rien pendant deux semaines puis que les gens ne soient pas avertis de plus qu'un message sur Twitter, mettons. Mm-hmm. Ben, on peut peut-être faire un petit quelque chose. Puis, bon, finalement, on a jasé beaucoup parce qu'on a, ayant pas trop d'affaires prévues, on s'est permis de jaser plus. Voilà. Peut-être que c'est ça la bonne chose à faire aussi.
Ben, puis, à quelque part aussi, il y a des choses qu'on veut, ben, où ce qu'on veut aller justement pour la qualité du contenu puis ce que nous, on aime faire. C'est sûr qu'on a toujours voulu favoriser avoir un contenu plus ouvert. Dans le sens que on scripte beaucoup, on arrive avec du contenu énormément préparé parce qu'on le sait que ça donne du contenu de qualité. Puis c'est pas facile d'improviser une conversation, puis que ça soit pas juste comme ben, des gags de coq sans arrêt, puis juste du...
Pour tous les coqs de ce monde.
C'est ça, puis c'est pas aussi évident, c'est quand Jeff est pas là, de faire des gags de coq à outrance.
Mais non, c'est ça, c'est l'expert.
Non, c'est ça, puis de faire le podcast, pour nous, l'idée de départ, on se le rappelle souvent, c'est pas quelque chose que vous savez forcément, mais on a toujours dit, ça serait le fun d'avoir un micro au milieu d'une pièce quand on a nos conversations sur une terrasse dans un bar, t'sais. Clairement, c'est pas devenu ça d'aucune maudite façon.
Non, ça...
Parce que c'est rare que je me prépare 11 pages de script avant d'aller prendre une bière. Pas que ça arrive pas, là. Mais c'est ça. Puis, fait qu'on essaye justement de voir l'équilibre entre tout ce contenu préparé là, puis juste le naturel de partager à l'entour d'une table. Et autant que c'est ce qu'on a trouvé comme contenu de qualité, puis clairement, ça a répondu aux attentes de certains parce que, ben, on a des quantités de downloads qui sont intéressants. On est content de la quantité de
downloads. Oui, on est content parce que ça fait quand même. Moi, je suis encore surpris, là. Ça fait plus qu'un an, puis je suis quand même surpris de voir qu'il y a plus que 12 personnes qui downloadent l'épisode.
Ouais, c'est ça.
Après un an, il y aurait 12 personnes, j'aurais dit, c'est pas pire. C'est comme ben, nous trois contre download, puis 9 autres personnes. C'est nice.
Ouais, c'est ça. Notre download automatique, c'est notre application de podcast. Là, c'est ça. Qu'on l'écoute pas pantoute.
Non, non, mais il download, puis on l'a pas enlevé.
Ben, c'est ça. Puis là, récemment, ben, on a fait le changement de format en même temps que JF est parti en Égypte. Puis c'est sûr que ça a peut-être nuit. Ben, en fait, il faut le voir de deux façons. Les stats de téléchargement nous disent qu'il y a eu un certain ralentissement. Bon, il y a plein de choses qui influencent les statistiques. Fait que c'est sûr qu'on le prend avec un grain de sel. Mais ça nous met quand même la puce à l'oreille de quand il y a des choses que nous, on est moins satisfaits, ça nous dit « ouais, c'est peut-être le reflet de quelque chose d'autre aussi ». Fait que le format à toutes les heures, des fois, on trouve qu'on a eu un petit peu de misère à s'ajuster. Évidemment, il y a moins de naturel dans nos discussions quand JF est pas à côté de
nous
autres.
Oui, parce que là, avec son lag, tu dis quelque chose puis ça y prend un, deux secondes avant de pouvoir réagir. La réaction est moins naturelle que quand on se coupe la parole, nous autres, avec nos grands gueules.
Bingo, puis tu peux juste comme faire un signe physique là, quand tu veux prendre la parole, quand on n'entend personne, ce qui n'est pas vraiment une option via Skype. C'est ça. Puis c'est pas un format auquel on est habitué de faire non, à distance. Il y a plein de podcasts qui se font via Skype et qui font une super belle job. Ben, pas nous autres.
Non, on n'est pas habitués.
Parce que ça nous limite plus.
On s'est habitué d'être dans la même pièce. Puis,
Et voilà. C'est ça. Puis un an d'habitude quand même.
Quand même.
C'est ça. Puis on voulait justement voir, ben, qu'est-ce que vous autres, vous en pensez de tout ça? On va mettre un petit sondage en ligne d'un côté. C'est sûr que si vous avez. On va une place pour les notes. Puis évidemment, si quelqu'un peut nous faire un. On préfère beaucoup avoir une note manuscrite de ce qui est intéressant, mais c'est sûr qu'on va regarder
oui, les manuscrite là, à la main. Oui, vous pouvez envoyer aux boîtes postales le 9218.
Non, mais d'avoir quelque chose que vous avez rédigé plutôt que juste cocher des cases. Là. Mais on va présenter un petit peu tout ce qui a été fait dans le show, puis des choses qu'on aimerait faire, puis voir où ça se situe. Parce que tu sais, on tire dans toutes les directions. On a parlé de séries télé, on parle de films, on parle de jeux rétro, rétro console, rétro PC, de jeux actuels, de jeux juste un petit peu passés. Que quelqu'un aurait peut-être pas joué ou juste que nous autres, ça donne qu'on parle à ce moment-là. On essaie de faire des formats plus libres. On arrive avec des espèces de listes de top 5 à l'occasion. Bref, dans tout ça, qu'est-ce que vous voudriez voir plus? Encore une fois, on le fait pour que le monde écoute, c'est sûr. Puis si on peut trouver notre... En fait, il faut qu'on trouve notre compte là-dedans et ouais. Que le monde qui nous écoute aime ça. Donc, évidemment, on veut savoir ce que le monde en pense. Puis, je sais que quand j'aime un podcast ou quelque chose que j'aime beaucoup, ben un appel personnel, c'est toujours intéressant parce qu'on est à quelque part investi dans ce qu'on écoute. Puis si on s'en sac, ben participez pas. Puis
oui, puis c'est correct ce aussi.
Puis on comprend bien ça.
Tout la ligne, on va faire notre réflexion, nous autres aussi, de notre côté. Mais on aimerait ça se nourrir de ce que les gens qui nous écoutent pensent parce que...
Ça sera un guide.
Moi, dans ma vie, tous les jours, je ne croise pas grand monde qui m'écoute. En même temps, je suis assez content. Là. Je ne voudrais pas que mes élèves m'écoutent et m'arrivent avec des gags de battes que j'ai fait. Là. Mais, mais justement, il n'y a pas tant de monde que je connais qui m'écoute et qui me font des commentaires. Ça m'arrive de temps en temps, mais...
Puis un commentaire personnel comme ça ne sera jamais si négatif. Non, tu n'auras pas la peine de dire hey, « ça, c'était vraiment poche ». Il y a quelque chose de... Bon, des relations humaines là, que tu n'as pas accès en cochant des cases dans un formulaire Google. Là,
que
vous allez avoir le droit de faire.
C'est ça. Que positif, négatif, le plus constructif possible parce que c'est ce qui va nous aider. Là.
Voilà.
Puis
c'est ça. Idéalement, nous, entre la sortie de cet épisode-ci, donc il va y avoir un épisode suivant, ben, il n'y aura pas d'épisode de la semaine suivante.
Il va y avoir une semaine de sauter. Là,
voilà. Style l'ancienne formule.
Voilà.
Puis on va prendre justement ce temps-là pour regarder les données. Évidemment, s'il y en a qui rentrent par la suite, on va toujours quand même les regarder.
C'est sûr.
Mais cette période de deux semaines-là va être c'est ce qui va nourrir finalement nos réflexions. Puis ben, merci à ceux qui vont participer, puis merci à ceux qui prennent le temps d'écouter
merci à ceux qui nous sont fidèles. Il y a du monde qui sont là depuis les douloureux débuts, qui ont survécu au changement de format, qui sont restés quand même. Peut-être qu'il y en a qui disent ben non, j'aime bien mieux ça de même, puis ça aussi, on veut le savoir.
Exact, dites-nous-le.
On se demande qu'est-ce qu'on veut faire avec le format, si on revient avec l'ancienne formule, si on reste avec deux semaines, si on se fait un épisode long comme avant, puis un micro-épisode entre les deux plus courts. Je vous dirais que tu sais, il y a beaucoup de choses qui se discutent.
Il y a beaucoup d'avenues qui nous intéressent, mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on aimerait quand même offrir quelque chose à toutes les semaines.
Ouais.
Donc, que ce soit, si on parle de revenir à l'ancienne formule, ce serait d'offrir une capsule entre les deux. Bref, qu'il y ait du contenu à toutes les semaines quand même, parce que c'est quand même dur de dire on va abandonner l'idée d'avoir du contenu disponible à toutes les semaines après l'avoir fait pendant presque deux mois.
Oui, quand même.
Voilà. Fait que bref, assez parlé. Allez remplir le sondage si ça vous intéresse. Puis merci d'avoir pris le temps d'écouter nos réflexions.
Ben oui. Voilà. Nos réflexions.
Good show!
Espérons-le quand même, malgré le manque
de... good show!
Ouais, c'est ça. Malgré le peut-être le... Un peu moins de script dans nos sujets, justement. On testait la patente. Donc, pour trouver les derniers épisodes sur le divanquest.com, pour du feedback, du hate mail, des commentaires, encore plus là, cette semaine sur le divanquest.com, c'est sûr qu'on va retrouver le formulaire là. Sinon, sur Twitter, au twitter.com/divanquest, sur Facebook, au facebook.com/divanquest, sur divanquest@gmail.com. Le podcast, on le retrouve aussi avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzoweb.com, dans la playlist de PodQuébec au podquebec.com, sur Balado Québec au baladoquebec.ca. Allez nous trouver, là, cliquez les 5 petites étoiles. Ça va être le fun de monter dans les listes. Aussi, ben, sur iTunes, hein, on vous rappelle pourquoi on est fatigué avec iTunes. Plus on est haut dans les listes d'iTunes, plus il y a de chances que les gens nous trouvent un peu par hasard. Puis ça, ben, on aime ça, avoir du monde qui nous écoute. Puis, ben voilà. Donc, d'ici là...
Game on!
Game on!